Entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Je reçois aujourd'hui Emmanuel Gavard pour son ouvrage « Les Endormis » publié aux éditions Lanskin. Emmanuel Gavard, bonjour.
Bonjour Paul de Brancion.
Alors c'est pas un roman, c'est pas de la poésie, c'est du théâtre. Mais ça veut rien dire. Parce que dans ce texte théâtral, il y a tout à la fois une narration, une histoire et aussi des moments poétiques. Et moi, Emmanuel, je veux dire quelques mots sur vous. A priori, d'abord, vous êtes donc un écrivain. Vous avez fait des études scientifiques, je crois, si je ne m'abuse.
Oui.
J'ai perdu mon papier, mais le voilà. Vous êtes diplômé d'une école d'ingénieurs de Centrale Lille.
C'est ça.
Et vous avez ensuite bifurqué vers le journalisme scientifique.
C'est ça.
Et la philosophie des sciences, qui, dites-vous, et ça on en parlera sûrement, vous a ouvert les yeux.
Exactement.
Et vous êtes journaliste économique dans la presse professionnelle. Votre formation artistique a commencé par la musique, à l'âge de 6 ans, au conservatoire, puis le piano, la composition, et vous avez découvert le théâtre vers l'âge de 18 ans, et vous avez remporté plusieurs prix étudiant en tant que comédien, metteur en scène, et avez participé à des ateliers au cours Florent, puis à Lille avec Antoine Lemaire, metteur en scène, puis participé à une carte blanche avec le Théâtre du Nord, littoral de Wadi Mawad, dans le rôle de Wilfried. Et ça vous a évidemment conduit vers le théâtre et le livre dont nous allons parler aujourd'hui s'appelle « Les Endormis ». Comme son nom l'indique, ça parle d'endormis ou d'endormissement. Et moi, j'aimerais vous demander de lire un extrait pour ouvrir le bal.
Eh bien, je propose qu'on commence par le début. Si vous voulez bien lire avec moi.
Oui, volontiers.
Je propose de faire Naya, le personnage principal, et vous pouvez faire Nils.
D'accord.
L'appartement, surtout aucun lit. Le sommeil est un mystère. Un vétuste appartement, comme un salon qui sert de tout. Une sortie vers la chambre des parents, un endroit où le fils peut dormir. Et au fond, une fenêtre avec un ou des rideaux, paupières du monde extérieur. Tu dors ? Nils, tu dors ? Tu rêves ? Tu dors ?
Quoi ?
Je n'arrive plus à compter. Viens m'aider.
Que fais-tu ?
Je vérifie.
Quoi ?
Mes moyennes.
Moyennes de quoi ?
De sommeil. Les voisins sont couchés. J'en profite pour compter avant que les lumières ne se rallument.
Compter quoi ?
Je t'ai dit mes moyennes.
Mais quelle heure est-il ?
On s'en moque de l'heure, tu ne dors plus maintenant, viens. 7h52, plus 7h23, plus 6h10, plus 5h43, plus 6h12, plus 4h58, plus 8h04, plus 7h14. Ça fait combien ? C'est plus que le bâtiment B. Mais moins que le D. Le bâtiment D, il dort tout le temps. Avec un D comme dormeur.
Oui, ils en ont de la chance, eux.
On va recompter.
Ah non, on ne va pas recompter.
Pourquoi ?
Car j'aimerais bien dormir, vois-tu, et tu devrais en faire autant.
Je n'y arrive pas, Nils. C'est comme si le soleil ne se couchait plus dans ma tête.
Le soleil n'est pas dans la tête, maman. Il est dehors, il sera toujours dehors. Et là, il est couché.
Bien. Dors alors. Moi, je vais recompter.
Tu ne vas pas t'acharner sur les chiffres toute la nuit, quand même.
Jusqu'à ce que je dorme.
Et si tu ne dors pas ?
Alors je serai sûr que les calculs sont bons.
Mais qu'est-ce que ça change ? Que ce soit bon ou pas bon ?
Ça change que je veux savoir.
Papa se lève à quelle heure ?
Dans 1h30.
Tu diras de pas trop faire de bruit.
Il te réveille ? Il te réveille le matin ?
Non.
Tu sais, je suis contente que tu fasses ta vie. Mais j'aime bien quand tu dors ici. Tu devrais venir nous voir plus souvent.
Oui, oui, je reviendrai.
Quand ? Tu dors ?
Presque.
Dors bien, Nils. Je vais te remettre une bûche dans le feu.
Elle s'assoit et recompte.
Noir.
Il s'agit de sommeil, clairement.
Il s'agit de sommeil.
Et là, c'est maman et Nils, enfin la maman
voilà.
Et Nils qui parlent. Elle le réveille, enfin on a l'impression
qu'il dort, elle le réveille,
il dort, c'est très agaçant de se faire réveiller, il est assez gentil finalement dans sa, sa réaction.
C'est intéressant, c'était toute la question du début. Quand on fait une pièce sur le sommeil qui s'appelle Les Endormis, je voulais absolument pas que le public s'endorme.
Si possible, oui.
Et le but, donc on l'apprend, c'est Naya ne dort pas, elle n'arrive pas à dormir, elle ne dort vraiment pas. Et la question, c'était comment on représente quelqu'un qui ne dort pas. Parce que quand on ne dort pas, on tourne en rond et en fait, on se définit par ce qu'on ne fait pas. Donc comment on montre quelqu'un qui ne dort pas. Et après avoir fait plusieurs débuts, et beaucoup de débuts, le meilleur début qui s'est imposé à moi, c'était de réveiller les gens. Quand on ne dort pas et qu'on n'arrive pas à dormir et qu'on doit faire une action, on réveille les gens. Et c'est pour ça que cette première question, Nils, tu dors, c'était une manière de réveiller aussi le spectateur, une manière de commencer de manière abrupte et de mettre en scène quelqu'un qui ne dort pas. Quelqu'un qui ne dort pas, c'est quelqu'un qui réveille.
Et alors, quand vous l'avez donné, cette pièce, est-ce que vous avez remarqué dans la salle des gens qui tentaient de dormir ?
On ne peut pas s'empêcher quand notre texte est mis sur scène, on essaye de scruter les réactions du public. C'est difficile, parfois, de voir des non-réactions. Mais non, j'ai pas vu de... Je pense pas, j'espère pas. Ou alors, il le cache bien.
Et alors, il a été joué dans plusieurs endroits, je crois, dans des endroits même assez originaux, si je me souviens bien.
Alors, elle a eu une résidence à Metz, au centre oui. Bernard-Marie Coltès. Peut-être qu'on y reviendra. Et elle a été jouée au Rwanda lors d'un festival par une troupe à Kigali.
Et cette pièce Les Endormis est-elle venue jusqu'au Rwanda ?
Par le centre Bernard-Marie Coltès de Metz à l'occasion d'un festival et par l'entremise de Lifou Messika qui était la directrice du centre Bernard-Marie Coltès de Metz et qui est maintenant en poste à Kigali. Et à l'époque, avait fait un festival et un partenariat entre le centre français à Kigali.
Mais alors, c'est des acteurs de Metz qui sont venus à Kigali ?
Ah non, pas du tout. C'est une troupe rwandaise, locale, qui a travaillé sur le texte pendant plusieurs mois. Ils l'ont d'abord lu en public lors d'un festival et après, ils ont voulu la monter. Ils ont tenté de trouver des fonds, mais c'est aussi dur de trouver des fonds au Rwanda qu'en France. Et ils ont juste eu le moyen de faire une résidence d'une semaine. Et ils l'ont joué donc à l'issue de cette résidence.
Parce qu'il y a dans cette pièce de théâtre, dans Les Endormis, il y a une situation latente de guerre, de oui. violence, etc. Évidemment, ça devait faire écho pour le Rwanda, ce que vous appelez les mogres, qui est une espèce de
menace extérieure.
Menace extérieure. Et les Rwandais, évidemment, ils connaissent ça par cœur, malheureusement.
Alors oui, ça parle de la guerre. C'est pas le cœur de la pièce, mais c'est un élément de contexte important.
Oui, mais c'est un personnage complémentaire, j'allais dire, qui est présent, cette guerre,
exactement,
c'est le mogre qui
exactement.
Est là derrière.
C'est une sorte de conflit latent. En fait, la pièce se situe presque dans un entre-deux conflits. Plus que la question de la guerre, c'est la question des conséquences de la guerre, de ce qui nous reste après la guerre. Et peut-être, c'est plus une pièce sur l'entre-deux-guerres, finalement. Et cette menace de mogre à venir qui est là aussi. Je pense que cette question de l'entre-deux-guerres comme de l'entre-deux-sommeil est peut-être importante.
Le téléphone sonne. Naya. Allô, Madame Baïm ? Vous appelez suite à mon questionnaire ? Il s'agit d'une simple question, madame. Combien de temps dormez-vous la nuit? C'est pour le Centre d'études sociologiques de Kairos. Pas une enquête de police. Je ne sais pas, madame, comme vous voulez, vous vous réveillez beaucoup, mais je n'y peux rien si votre mari ronfle, etc. Je ne vais pas tout lire, mais voilà, voilà, c'était une, ça commence. Enfin, ce n'est pas tout à fait le début du texte, mais là, il y a une de ces nombreux appels téléphoniques qui vous tombent dessus. Et là, c'est curieusement un centre d'études sociologiques de Kairos.
Alors, Kairos, c'est l'espace où se situe la ville, où se situe la pièce. Et dans ce monologue, donc Naya, qui ne dort plus, s'inquiète et veut savoir, elle veut arriver à comprendre pourquoi elle ne dort plus. Et donc, elle essaye de savoir si elle est toute seule à ne pas dormir ou non. Et donc, elle use de stratagèmes pour essayer de savoir si c'est local ou pas, si c'est la faute des mogres, peut-être. Et donc, elle veut savoir si d'autres gens autour d'elle ont aussi des problèmes de sommeil. Donc elle invente cette espèce d'institut, c'est une sorte de doux mensonge pour se faire passer. Parce que il y a une question de l'intimité. Quand on demande à quelqu'un combien de temps il dort la nuit, c'est presque une sorte de l'intimité. Et donc elle passe ce coup de fil pour essayer de savoir. C'est aussi une scène presque un peu drôle.
Elle aurait pu faire de la radio la nuit, Naya, en l'occurrence.
Elle aurait pu pour s'occuper.
Pour s'occuper.
Elle va trouver d'autres choses pour s'occuper.
Mais... Et elle lui dit, Naya... Alors Naya est au téléphone, seule devant la table. Là, c'est des monologues, en fait.
Oui.
Et Naya, je ne sais vraiment pas ce qui m'arrive. Tu me connais, je ne suis pas une fleur à sanglots de ceux qui s'inventent des histoires à pleurer dès la première bourrasque. C'est joliment dit. La vie est comme elle est. Mais la nuit, quand je ferme les yeux, rien ne se passe. Comme si mes pensées se raidissaient et se mettaient à vibrer dans tous les sens. C'est un tremblement de terre permanent. J'essaye de mettre les yeux ailleurs, je bouquine, je scrute l'encyclopédie, en long, en large et en travers. J'ai des rivets dans la tête à force de la fixer. Et j'ai chaud. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai chaud.
Ces monologues, ils sont importants parce que c'était, pour moi, une manière de mettre en avant la solitude qu'on ressent quand on ne dort pas la nuit, et surtout la solitude de Naya face à ses symptômes. Personne ne comprend, notamment son mari Naïm, et même son fils Nils, ne comprennent pas qu'on ne dort pas, qu'on ne puisse pas dormir autant. Et donc elle se retrouve esselée face à situation, et les monologues étaient un moyen de mettre en exergue cette solitude, cette incompréhension, le fait de parler toute seule, de trouver dans cette voix au téléphone quelqu'un qui la comprend.
Ce n'est pas une insomnie, c'est toujours le même monologue. Je le vois bien sous mes paupières, ce n'est pas le même noir. Quand je ferme les yeux, tout est gris pâle, les mogres se rapprochent. Personne ne me croit. Il faut que j'arrive à trouver le chemin. Quand je calcule, je vois la lumière. Alors je compte. Si seulement j'arrivais à prouver que les voisins, non plus, ne dorment pas.
Thank you.
écoutez Allegre FM 93.1.
Je reçois aujourd'hui Emmanuel Gavard pour Les Endormis, une très belle pièce de théâtre publiée aux éditions Lanskin. Et nous venons d'écouter une sonate de Jean Huret, interprétée par Raphaël Chrétien au violoncelle.
Au violoncelle, c'était mon professeur à Caen, quand j'étais plus jeune et que je faisais du violoncelle.
D'accord, donc il vous a appris à mettre la main, à bouger l'archet, etc.
Pas ça, parce qu'il est arrivé justement plus tard, c'était mon troisième professeur.
D'accord.
Et lui, c'était beaucoup plus, il m'a fait découvrir à quel point la musique pouvait être autre chose que de la musique. C'était toute une réflexion beaucoup plus artistique sur, parfois on passait une demi-heure à parler avant de jouer une mesure, parce que c'était important d'avoir une disposition intérieure et une réflexion intérieure.
Oui. Voilà. De se mettre dans la musique par l'esprit.
Exactement.
On va écouter quelque chose des Endormis maintenant.
Oui, un autre long, c'est pas un monologue pour le coup, mais de Naya, qui va aller donc chez le médecin face à ses symptômes, et la science atteint ses limites, la science ne comprend pas l'ensemble des symptômes et elle minimise tout ce que Naya peut ressentir. Les symptômes sont nombreux, et donc il y a le fait qu'elle est chaude, il y a le fait qu'elle ait des raidissements au niveau du cou. Et la médecin minimise, lui prescrit des tisanes, lui dit de faire des repas lourds pour bien dormir. Et donc Naya s'énerve, parce qu'elle a quand même du caractère, et donc elle lui dit ça. L'autre jour, mon corps m'a offert quelques heures de repos, mais je ronge un os pour donner le change au repas. C'est une tricherie. Mon sommeil est un mensonge, un échec. Il rate la cible. Je suis trop raide pour lui, vous comprenez ? J'ai perdu toute fluidité. Ma tête est vissée sur mon cou et quelqu'un a trop serré l'écrou. Mes yeux creusent des cratères pour entailler mon crâne, percent ma tronche à violents coups de pioche. Elle frappe, elle frappe, elle frappe. Je ne suis plus fluide. Vous ne le voyez pas, ça, que je ne suis plus fluide ? Je transpire comme une épave qu'on sort de l'eau, mais je suis toute sèche à l'intérieur. L'eau me fuit. Je me vide, je sens que je me vide, et je n'arrive plus à me plier. Me plier, oui, dans tous les sens. Je ne m'incline plus devant la nuit, je ne fléchis plus devant la force, le poids du noir. Je suis un bloc tout en titane, âme, corps, pensée, tout en métal. Je n'ai plus de masse. Je suis une masse immense, énorme, qui avale tout. C'est moi la gravité, j'attire toutes les idées. Je suis une planète impliable qui pèse sur le grand tout. Mon corps buste, résiste, s'oppose. Et mes pensées sont raides, elles se bloquent, elles s'obstinent. Je vois des mogres et je veux parler leur langue. Je veux tout savoir, tout savoir. Je veux savoir les mots et au-delà des mots, savoir ce qui est derrière les mots. Je suis un prisme inverse qui avale toutes les lumières, toutes les raies de toutes les couleurs, partout, qui se rejoignent en lueur blanche, là, dans ma tête, et qui ne s'éteint pas. Vous comprenez ? C'est ça, le symptôme. Je suis un prisme inverse. Alors comment je fais pour remplir la fiche de symptômes avec tout ça ? Comment on fait dans vos cases pour décrire ce qui n'appartient qu'à soi ? Vous avez des tisanes contre tout ça ? Insomnie, insomnie, je vous en flanquerai des insomnies. Moi je ne dors pas, et je dis tout cela quand je vous dis que je ne dors pas.
Parce qu'au début elle est un peu étrange, ce médecin. Comment s'appelle-t-elle ?
Nour.
Parce que, bon, elle fait comme tous les médecins, elle essaye de comprendre. Donc, et au début, elle ne comprend pas ce qui se passe. Donc, elle essaye toutes sortes de façons. Et elle essaye de la calmer un peu. Et ça l'énerve, Naïm.
Ça énerve Naya parce qu'elle, Nour, est dans une sorte de dédramatisation. Mais comme tout le monde est quand quelqu'un vous dit qu'il ne dort pas. Et c'est quelque chose de très symptomatique de tout ce qui est lié au sommeil. C'est que vous êtes responsable de votre sommeil. Et donc, si vous n'arrivez pas à dormir, je ne dirais pas que c'est de votre faute, mais c'est de votre responsabilité. C'est à vous de vous calmer. C'est à vous de trouver des moyens pour trouver le sommeil. Et donc on va y venir, je pense qu'on peut le dire, mais c'est qu'il y a derrière une maladie beaucoup plus lourde, beaucoup plus profonde. Et en fait, la science a mis énormément de temps à comprendre cette maladie. On reviendra sûrement peut-être sur ce sujet-là. Parce que justement, l'écoute des victimes était très restreinte. C'est-à-dire qu'on balayait un peu le symptôme en disant « vous ne dormez pas ». Et en même temps, le symptôme n'est jamais compris à sa juste mesure, et c'est là où il y a une limite du langage par rapport à certains symptômes, et c'est ça, moi, qui m'intéressait aussi. Quand vous dites « en ce moment, je ne dors pas », on pense que vous ne dormez pas beaucoup. On pense que vous avez du mal à vous endormir. On pense que vous dormez peu. Alors que quand Naya dit « je ne dors pas », c'est qu'elle ne dort pas du tout.
Oui, c'est ça.
Elle ne dort pas du tout. Du tout. Et ça change tout. C'est-à-dire que là, c'est la compréhension, l'appréhension de la réalité et du dialogue entre, pour le coup, les personnes autour d'elle et Naya, ne se fait pas de la bonne manière.
Parce qu'on sait très bien que quand on dit « Ah, j'ai pas très bien dormi » ou « Je dors pas », mais en fait, on dort par moments, même on s'en rend même pas compte.
On dort un petit peu.
On dort un peu. Et on se repose, donc.
Et on se repose un petit peu. Le corps a quand même cette fonction qui fonctionne.
Oui, c'est assez remarquable. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, il y a des gens qui s'entraînent à ne pas dormir.
Oui.
Et donc, on peut pendant jusqu'à 48 heures ne pas dormir, mais... Il faut pouvoir prendre des petits moments où on dort quelques minutes, une dizaine de minutes.
C'est ça, des phases de micro-sommeil. Voilà. Les gens qui sont très très habitués à ça sont en dehors des unités d'élite de l'armée ou des choses comme ça. Les navigateurs font ça énormément. Ils font des phases de micro-sommeil, des phases de sommeil de 10 minutes où ils arrivent à se mettre en état de récupération. Et ils peuvent en enchaîner plusieurs.
Il paraît que les hommes politiques en campagne électorale aussi.
Le font aussi.
Ils font ça.
Et c'est quelque chose pour lequel on peut s'entraîner.
Oui.
Mais la fonction du sommeil est ce qu'on appelle une fonction homéostatique, c'est-à-dire qu'elle, le corps s'autorégule naturellement. Si on vous prive de sommeil, vous allez finir par dormir à un moment donné. À moins de devenir fou, et là on connaît la torture de ce que c'est que la privation de sommeil utilisée dans de nombreux cas, dans des états peu recommandables.
Et dites-moi, alors, notre héroïne, Naya, elle est mise en maison de repos dans un cabinet médical, ou est-ce qu'elle va simplement dans le cabinet médical, dans la maison de repos ?
Là, elle va dans le cabinet médical, d'abord elle est chez elle, et par la suite, elle ira dans la maison de repos.
C'est paradoxal d'aller dans une maison de repos quand on ne peut pas dormir.
Évidemment, c'était le clin d'œil. C'était voilà. Le clin d'œil. Et d'ailleurs, le but dans la pièce, à chaque fois, je l'ai dit au début, mais surtout, on ne met pas de lit, parce que le sommeil doit rester quelque chose de mystérieux. Et donc, dans la maison de repos, idem, il n'y a pas de lit. C'est-à-dire, c'était une précision de ma part dans la pièce. Je ne voulais pas qu'il y ait de lit sur scène.
Ah oui, il n'y a pas de lit dans la maison de repos sur scène.
Voilà.
Oui, c'est très. Mais alors cette pauvre Naya, elle souffre beaucoup quand même.
Parce que elle souffre de différentes manières.
D'incompréhension aussi, j'ai l'impression.
Enfin, mais c'est surtout ça, c'est-à-dire personne n'arrive à comprendre vraiment ses symptômes, et même la science, même la médecine n'arrive pas à comprendre. Et ça, par rapport à cette maladie qui existe, c'est pour le coup quelque chose de très historique. Cette maladie a été décrite dans un bouquin de Daniel T. Max, qui s'appelle La famille qui ne dormait pas, qui est le seul livre qui parle de cette maladie-là. C'est une maladie très très très récente. La science va avoir énormément d'errance autour de cette maladie, donc on peut peut-être nommer à ce stade de l'entretien.
Et oui, bien sûr.
L'insomnie fatale familiale. Pendant des années, on n'a pas cru que c'était une maladie, on a souvent cru que c'était une malédiction. On a mis énormément de temps avant de percevoir que c'était une véritable maladie.
Mais alors, sommeil. On va développer tout à l'heure sur l'insomnie fatale, justement, parce que, bon, il y a tout un... On pourra même lire ce passage, je trouve, du cabinet médical de la maison de repos. Mais avant, il y a aussi le mari dont on a peu parlé.
Naïm.
Naïm qui est à la fois... Il est amusant parce qu'il fait des assauts de modestie ou de manque de confiance en soi, alors que c'est un homme finalement assez solide à sa façon. Hein, mais il n'arrête pas de dire « je suis presque rien, je suis moins que rien, je suis juste là ». Et il vit de l'amour qu'il porte à sa femme, ou à je ne sais pas s'ils sont mariés d'ailleurs. Mais il dit des choses très délicieuses à son propos. Il dit que c'est elle qui l'a choisi, il ne vit que par elle en fait, et c'est très beau. Mais en fait, moi je crois qu'il vit quand même aussi, peut-être grâce à elle, mais il a une existence autonome.
Parce que la question générale de la pièce, c'est la question de l'appréhension de la réalité, de la confiance qu'on peut avoir dans ce qu'on sait, dans ce qu'on ne sait pas, dans ce qu'on raconte, dans les symptômes. Finalement, Nour n'a pas confiance totalement dans ce que lui dit Naya quand elle lui dit « je ne dors pas ». L'autorité médicale va venir lui expliquer peut-être sa maladie mieux qu'elle. Même si ces choses-là évoluent avec le temps. Et la relation avec Naïm, pour moi, c'était important de remettre aussi cette idée de confiance. Si Naïm a cette vision-là de lui-même, ce n'est pas pour rien. Donc, il faut peut-être aussi parler qu'il est en conflit donc avec son fils Nils, du fait qu'il ne se parle pas. Et finalement, avec Naya, il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas. Ils ont une relation finalement très... comme beaucoup de couples après de longues années de vie commune, on va dire plus quotidienne. Mais il y a au fond d'eux un amour inconditionnel que je voulais quand même mettre en avant. Et Naïm, s'il a ce manque de confiance, bon, là, on ne va pas dévoiler la fin, mais c'est pour une raison bien précise aussi. Oui.
Alors, il dit Naïm, cette frousse-là, ce dégoût d'être au-dessus des autres et de parler pour qu'ils agissent. Je ne sais pas choisir, moi. Je suis un branque pour dire des phrases. Qui suis-je, moi, Naïm, pour avoir des certitudes sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire? J'ai beau poser des centaines de rivets par jour, je passe mon temps à douter de leur diamètre. Quand la pince claque, là, dans ma main, avec son pneumatique gonflé, j'ai toujours un sursaut. Et si ce n'est pas le bon numéro, le bon endroit, le bon trou? Je suis un pleutre, moi, Naya. Tu vis avec un pleutre. Comment veux-tu que je parle à Nils? Mes mots, ils n'auront jamais le bon diamètre. Et elle répond, « Oh, Naïm !» Et lui, il continue, « Quand je t'ai rencontré, c'était la fin de la guerre des hordes. Tu te souviens? Le jour où nous nous sommes rencontrés ensemble, tu te souviens? La cohue que c'était? Naya, oui, je me souviens. Dans la foule, avec Nils dans les bras, on courait pour prendre un bus, le premier qui partait, et aller partout, tant que ce n'était pas pour rester là. J'ai toujours peur de l'inconnu, Naya, et grâce à toi, les chauffeurs nous ont pris. On a roulé, roulé, roulé, et aujourd'hui, on en est là. Naya, je suis un pleutre, mais j'aime tellement ce pas d'avance que tu as sur moi. La nuit, quand tu ne dors pas à mes côtés, je ne m'endors plus sitôt, la tête posée sur l'oreiller. Je ferme les yeux et je ne rêve plus. Je ne sais pas décider, car je ne sais plus où mener mes rêves. La seule décision que j'ai prise dans ma vie, Naya, c'est de te suivre. C'est magnifique. Hein?
Merci.
You're holding back from falling down by pretending to be. By pretending to live, the shock is fine, the treatment's right. An endless letter from the saddest loner. You've waited this long, but now you're tired. Demon drink, you're
écoutez Allègre FM 93.1.
Je suis avec Emmanuel Gavard pour son ouvrage Les Endormis, publié aux éditions Lanskin, une pièce de théâtre dont vous allez entendre un extrait.
Calmez-vous. Vous savez, la médecine est un être vivant, une nuée d'oiseaux qui volerait en pleine nuit au-dessus des villes. Elle ne connaît pas les cartes, elle ignore sa position, elle tente de discerner les lieux en écoutant les cris de ceux dont la lumière est allumée. C'est cela, la médecine. Vous voyez ? Vaguement. Si à force de les survoler, la médecine reconnaît bien quelques capitales, des métropoles, des agglomérations, ici ou là, bien des villages restent obscurs, et il y a des nuages, et nous ne distinguons que des lueurs éparses, des cris étouffés. C'est que dans ces villages, beaucoup de vies dorment en silence. Les prions font partie de ces secrets enfouis. Le prion n'est pas un être vivant, ce n'est pas une bactérie, ce n'est pas un virus. Il ne se reproduit pas, ne mange pas, ne vit pas. Le prion dort. C'est un amas de matière vitale morte, une protéine. Un ensemble de particules premières formées sur Terre bien avant nous. Bien avant que les cris des oiseaux ne peuplent la terre, avant que les poissons ne jaillissent de la mer, avant même que les plantes n'émergent et que les abeilles ne les butinent. La protéine est un ensemble de molécules éparses, un troupeau de rien qui s'est mis à former un tout, une sorte de ribambelle décorative. Et pourtant, sans elle, aucune maison ne tiendrait droite. La protéine est nécessaire à la vie, mais elle n'est pas la vie. Alors pour se rendre utile, les protéines se plient, se tournent sur elles-mêmes, les molécules dansent, s'agencent en une chorégraphie particulière, un entrechat pour la mémoire, une valse pour le plaisir, un soubresaut pour la peur, une polka pour les pensées, tout cela dans un cerveau bouillant de grâce, chaud de la sève qui l'inonde au rythme de l'existence. En continu, les protéines tournoient dans notre tête, dans notre corps, passent de cellule en cellule pour qu'opère la magie des sens.
Vous parlez bien.
Le prion est une protéine pliée dont on ne connaît que très peu de choses. Tout juste sait-on que parfois, cette matière dormante se plie mal, se tord dans des positions floues. Le prion est une protéine infectieuse, une source de vie qui a basculé du mauvais côté. Et l'existence devient naufrage. La protéine ne remplit plus son rôle vital. Et la cellule, alors, dégénère.
Dégénère ? Elle a des prions dans la tête ? Et si ces cellules s'éteignent ?
Pardon, je vois pas où vous êtes.
Mais au contraire,
elle est de plus en plus active. Elle ne dort plus, elle dit toujours qu'elle voit de la lumière partout.
Les prions sont très localisés et s'attaquent à une partie de son cerveau, le thalamus.
Naya a mal au thalamus ? Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe alors ?
Nous avons perdu beaucoup de documentation pendant la guerre, des hordes et les recherches sont au point mort.
Mais qu'est-ce que vous savez alors ? Depuis le début, vous nous dites ce que vous ne savez pas.
Le cerveau fonctionne comme un ensemble de connexions chimiques. Et le thalamus est une sorte de réseau central et notamment, il sert de filtre pour les idées.
Je ne comprends pas.
Le thalamus permet de se déconnecter du monde pour éteindre la lumière en soi. C'est un interrupteur de la pensée, c'est pour cela que le sujet ne trouve plus le sommeil.
Et on ne peut pas le réparer ? Vous ne pouvez rien faire ?
Il remplit beaucoup d'autres fonctions, il régule la température par exemple, c'est pour cela que le sujet sue énormément ou que sa température varie jusqu'à être parfois très basse. Il remplit aussi des fonctions motrices, mais les prions et leurs sales pliures se propagent parfois ailleurs.
Les tremblements, le coup ?
C'était pas un délirium très mince.
Et la suite ?
Le sujet devient de plus en plus déconnecté du monde. Son corps devient de plus en plus faible. Le sujet voit des tremblements se multiplier.
Est-ce qu'on pourrait arrêter de dire le sujet ? Elle s'appelle Naya.
Pardon.
Et donc ?
Cette maladie du prion s'appelle l'insomnie fatale.
Fatale ? Quand ?
Prochainement.
Quand ?
son état est très avancé. Quelques jours, quelques semaines peut-être.
Mais on ne peut rien faire. Bon sang, il doit bien y avoir un moyen, replier correctement ses protéines. Là, je ne peux pas faire un don.
C'est impossible sur des fonctions aussi vitales que le cerveau.
Nous sommes donc condamnés à voir Naya ne pas dormir, à la regarder crever, à voir de la lumière dans sa tête toutes les nuits, penser en continu, trembler comme un néon trop cuit jusqu'à ce qu'elle s'éteigne totalement.
Sachez que, quoi qu'il arrive et quelle que soit l'évolution de son état, Naya restera Naya jusqu'au bout, lucide. Elle aura besoin de vous, de tout votre soutien. Les prions n'auront jamais sa vraie lumière.
J'ai besoin d'air.
Si vous avez besoin d'être écouté, n'hésitez pas.
Oh, vous savez, dans la famille, on s'en sort toujours.
Voilà, alors la pauvre Naya, elle a une mauvaise maladie, quoi. Voilà.
Alors, oui, une maladie qui est génétique.
Et qui n'est pas du tout psychique.
Qui n'est pas du tout psychique et qui est une vraie, vraie maladie qui existe, pour le coup, donc qui s'appelle l'insomnie fatale familiale, qui touche de manière très rare des personnes à peine quelques centaines de milliers, voire même quelques milliers de personnes dans le monde. Alors, comme c'est une maladie qui se déclare assez tardivement, c'est là où je dis que les prions sont dormants, c'est que c'est une maladie qui peut se déclarer aux alentours de 55-60 ans. Mm-hmm. Ou alors plutôt 20 ans, mais dans ces cas-là sous forme parfois de maladie psychique avec des symptômes équivalents à une sorte de schizophrénie ou... Voilà, plus de psychose.
Ce qui est très fort, c'est que non seulement c'est une maladie où on ne dort pas, mais en plus c'est une maladie que les autres ont de la peine à percevoir,
à comprendre. Exactement.
Et vous êtes venu tout à l'heure, enfin plutôt vous êtes venu avec un très beau texte de Thomas Bernhard que j'aimerais bien qu'on lise, parce que ça parle de la relation ou de la compréhension ou de la conscience que les malades ont et des relations qu'ils ont avec les non-malades, ou qu'ils n'ont pas d'ailleurs.
Avec les bien-portants.
Les bien-portants,
et voilà. De la difficulté de la relation et de la compréhension entre les deux. C'est extrait du neveu de Wittgenstein, donc de voilà. Thomas Bernhard. Je vais commencer.
Oui, on peut en lire quelques extraits, c'est très intéressant et c'est très...
Parlant.
Parlant, oui, c'est ça.
Le malade qui a été loin de chez lui pendant des mois... Il revient comme quelqu'un à qui tout est devenu étranger et qui doit, peu à peu et à grande peine, se familiariser à nouveau avec tout, tout se réapproprier. Quoi qu'il ait pu posséder, il l'a, entre-temps, réellement perdu et il lui faut maintenant le retrouver. Et comme le malade, par définition, est toujours abandonné à lui-même, tout ce qu'on dit d'autre n'est qu'un mensonge éhonté, il doit faire appel à des forces tout à fait surhumaines s'il veut pouvoir reprendre là où il s'est interrompu, des mois, ou comme à plusieurs reprises dans mon cas, des années plus tôt. C'est une chose que le bien portant ne comprend pas. Il s'impatiente tout de suite et justement par son impatience, il rend difficile au malade de retour chez lui ce qu'il devrait lui faciliter. Les bien portants n'ont jamais été patients avec les malades. Et forcément, les malades, pas davantage avec les bien portants. Il ne faut pas l'oublier. Car de tout, le malade attend beaucoup plus que le bien portant, qui n'a pas besoin de tout en attendre, puisqu'il est en bonne santé. Les malades ne comprennent pas les bien portants, tout comme inversement, les bien portants ne comprennent pas les malades. Et ce conflit est très souvent un conflit mortel, que le malade, en fin de compte, n'est pas de taille à affronter, mais bien entendu pas davantage le bien portant qu'un tel conflit, souvent, rend malade.
Mais alors, dans votre histoire, enfin dans Les Endormis, finalement, Naïm comprend assez bien, me semble-t-il, sa femme, enfin Naya, il la comprend parce qu'il l'aime. Enfin, comment dirais-je, c'est pas parce qu'il la comprend qu'il la comprend, il la comprend parce qu'il est empathique vis-à-vis d'elle.
Ben, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il ne lui dit pas ou qu'ils ne sont pas sur le même mode de communication qu'ils ne peuvent pas arriver à se comprendre autrement. Et je pense que c'était important pour moi de montrer qu'il y avait dans les relations, parfois, c'est tout ce que Nour va dire aussi. Donc Nour qui est très rationnel et qui va être confronté...
Médecin, c'est ça.
Médecin très rationnel et qui va être confronté à des faits qui vont s'imposer à elle et qui ne sont pourtant pas exprimables en des termes clairs. C'est ce que j'appelle les mots entre les mots. Et je pense que c'était important de montrer avec cette maladie, encore une fois, cette maladie, pour moi, le but, c'était d'en faire un levier de question par rapport à plein de choses, à l'appréhension de la réalité. Et il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre. Alors, on peut appeler ça de l'amour, on peut appeler ça de la musique, on peut appeler ça... Il y a beaucoup de choses parmi les sens qui peuvent... se transmettre et nous faire comprendre des choses. Et Naïm, quand il ne rêve plus la nuit parce que sa femme ne dort pas, alors qu'il dort mais il ne rêve plus, il commence finalement à avoir lui-même des symptômes qui ne sont pas ceux de l'insomnie, mais qui sont des symptômes propres à lui, finalement. Ne pas rêver, c'est aussi un symptôme.
Mais ce que je pense, ce qui est très déceptif, Thomas Bernhard dans son texte est très déceptif, hein, il dit au fond le bien portant ne veut plus rien avoir à faire avec le malade, et il n'est pas content quand le malade, je veux parler du grand malade, prétend tout à coup avoir droit à la santé. Et les bien portants font toujours ce qu'ils peuvent pour que le malade ait du mal à recouvrer la santé, ou du moins à se normaliser à nouveau, ou du moins à améliorer son état de santé. Le bien portant, s'il est sincère, ne veut rien avoir à faire avec le malade. Il veut que rien ne lui rappelle la maladie, et par là, forcément et logiquement, la mort. Les bien portants veulent rester entre eux, et parmi leurs semblables, au fond, ils ne tonnèrent pas la maladie, ou le malade. Mais en fait, c'est vrai, enfin moi je pense qu'il y a du vrai, mais c'est quelquefois transcendé par, justement, l'amour.
Et je suis assez d'accord. Voilà, moi, on peut pas dire que Thomas Bernhard est pas quelqu'un d'extrême dans ses positions. il a toujours été.
Mais l'amour est rare. Je veux dire, les gens qui sont capables de cette générosité de soutenir justement un malade qui est un amoindri et une image de la mort permanente devant eux. Quand je parle on parle des graves maladies. On parle pas des rhumes des foins.
Hein, bien sûr. Pas...
mais et bien les gens qui sont capables de passer au-dessus de cette angoisse de la mort finalement sont rares. Mais ça existe.
Ça existe, et c'est toute une réflexion autour du soin, justement. Qu'est-ce que c'est que le soin ? Et c'est là où il faut sortir de l'approche peut-être justement rationnelle ou rationaliste, parfois de la médecine, ou en tout cas inclure une vision du soin qui soit... Alors je ne sais pas si on peut demander à du personnel soignant dans les hôpitaux ou dans les services médicaux d'aimer les patients qui sont là, mais en tout cas dans une approche du soin qui prend en compte d'autres... d'autres considérations, d'autres faits. Est-ce que le bâtiment permet aussi cette approche du soin, de libérer ce dialogue ?
Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Enfin, moi, mon expérience des médecins ou des soignants, infirmières ou aides-soignants, peu importe, qui sont de qualité, enfin, qui sont extraordinaires, il y en a, c'est que ce sont tous des gens habités par une force spirituelle, je ne sais pas laquelle d'ailleurs, d'ordre de l'amour, qui transcendent cette angoisse-là. Il y a une lumière dans tous les grands soignants, qui peuvent être des petits soignants, ont une lumière en eux qui irradie, qui n'est pas de l'ordre du rationnel.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alo, buyurun. Alo. Anladım, sensin o. Konuş benimle, seni dinliyorum. Lütfen konuş. Konuş benimle, lütfen. Bana 10 kere, 100 kere, 1000 kere, 100 kere, 1000 kere kaç kere darıldın sen. Yine gel diye, sev diye, gel diye kaç kere aradın sen. Yine gel diye, sev diye, gel diye kaç kere aradın sen. Neden susuyorsun? Konuş. Suçu bende arıyorsun değil mi? Ama gene arıyorsun beni. Konuş lütfen. Lütfen konuş benimle. İşte o dedi, bu dedi, şu dedi, kim dedi, ne dedi, bir sürü dedikodu. İşte kaç kere boş yere yok yere geldi bu aşkın sonu. İşte kaç kere boş yere yok yere geldi bu aşkın sonu. Biliyorum sen de beni seviyorsun. Ne olursun konuş. Bu anı kaç gündür bekliyorum. Konuş, lütfen konuş benimle. Ne olur.
Ce sont Les Endormis d'Emmanuel Gavard, une pièce de théâtre publiée aux éditions Lanskine. Et je reçois Emmanuel Gavard pour parler de ce très beau livre sur la maladie, sur le sommeil, sur la famille, sur un grand nombre de thèmes très proches de nos préoccupations intimes. Emmanuel, on se dirige vers la fin de cet entretien. Et il faut parler un peu justement des relations familiales entre Naïm, Naya, Nils et Nour, qui sont en fait liées par des relations inattendues, secrètes, et des secrets de famille.
Des secrets de famille, voilà. Du coup des secrets endormis que la maladie va venir révéler. Tous ces non-dits, on disait tout à l'heure que Naïm et Nils ne se parlaient pas et... on apprend à la fin donc pourquoi ils ne se parlent pas, et finalement donc il faut savoir que l'insomnie fatale familiale est une maladie héréditaire avec une chance sur deux de l'avoir, c'est-à-dire que quand vous avez un membre de vos parents qui est porteur, vous avez une chance sur deux de l'avoir. Alors on ne dit pas une chance, on dit un risque d'ailleurs. Nour reprend Nils à ce sujet-là. Et donc pour moi, c'était aussi une question d'interroger les liens familiaux et qu'est-ce que c'est que la famille dans en partant de cette maladie, et justement de créer, donc là il y a le fameux coup de théâtre, mais aussi des effets de surprise, de savoir qu'est-ce que l'on sait et comment on peut se mentir au sein même d'une même famille, juste en taisant les choses. Et donc je ne sais pas si on doit le révéler ou pas, mais...
mais ce que je veux dire, c'est que c'est certain, c'est quand on a une affection importante, très souvent on vous demande de faire des tests génétiques pour savoir si c'est une affection que vous avez reçue héréditaire ou pas. Et c'est toujours, ça pose de drôles de questions, parce que voilà, c'est quand même douloureux quand on a quelque chose de très violent qui vous traverse le corps, de penser qu'on en a hérité. Voilà, c'est où qu'on peut le transférer.
On peut le transférer. Et la question du transfert est aussi éminemment complexe.
Voilà. Et donc, alors, on peut quand même avancer. Nils, qui est le fils de Naya, donc on va lui faire une analyse génétique pour savoir si lui aussi, il a le
gène.
Le gène plié, ou je sais pas comment.
Enfin, le gène qui va faire des protéines pliées.
Pliées, voilà. Le gène
mal plié.
Et donc, il a un peu la trouille, puisque c'est 50-50, on lui dit.
C'est ça. Donc, il a la trouille. Et alors, il y a ce truc de la scène du début où il reste devant une porte des toilettes parce qu'il ne sait pas si elle se pousse ou. Enfin, il pense qu'elle se. Ça nous est tous arrivé, je pense, de rester devant une porte des toilettes pour savoir si. En pensant qu'elle est fermée, alors qu'en fait, elle se poussait, alors qu'il fallait qu'on tirait. Ou l'inverse. Et donc il y a ce monologue où il est face à ce risque. Dépêchez-vous, j'ai tout mon temps, il faut que je pisse, ce soir je ne dors pas. Quitte à ne pas fermer les yeux, autant commencer maintenant. Hop, on ne dort plus, tout le monde debout. Vous dormez, vous, bande d'endormis. Moi j'ai une chance sur deux, un risque sur deux, pardon. Un risque sur deux, ça fait quand même une chance, sur deux, évidemment. Et comme depuis que je suis né, je pousse les portes qui se tirent et je tire les portes qui se poussent, il y a quand même plus de chances que je tombe sur le risque que de tomber sur la chance. et on apprendra, donc finalement, en fait c'est là où Nour va apprendre quelque chose, c'est qu'en faisant ce test génétique, elle verra que Nils n'est finalement pas le fils de Naya, et que c'est ça ce secret,
c'est ça, oui.
Que Naïm lui dit. Et la question va être de savoir s'il va lui dire ou non ce secret.
Voilà, il y a encore d'autres secrets, mais on ne va pas
dire
le dernier
secret.
On va pas
tout dire. On a déjà révélé celui-là, mais il y a encore d'autres secrets.
Voilà. Mais alors, il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre de la réflexion sur l'esprit. histoire, c'est-à-dire quand on, en matière de maladie, que quelquefois, ça arrive en tout cas, la médecine vous déclare condamné. C'est-à-dire, on vous dit, voilà. D'ailleurs, on lui dit à elle, à Naya,
fatal. C'est fatal, le nom de la maladie.
C'est fatal. Et il y a aussi chez Naya, d'ailleurs, il y a ça, un espèce de sursaut devant l'horreur, l'horreur absolue, parce que c'est quand même assez pénible de penser qu'on va de toute façon y passer et que c'est garanti sur facture, si je puis dire. Eh bien, il peut y avoir un sursaut d'espoir absolu, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire d'arriver à passer au-dessus et de considérer que malgré ça, quelque chose de la vie continue, je ne sais pas sous quelle forme, ni objectivement ni subjectivement, c'est-à-dire derrière la porte ou devant la porte, il y a la vie. Et puis quelquefois aussi, le fatal ne s'accomplit pas aussi fatalement qu'on le prédit. Voilà, il y a des mystères.
Il y a des mystères et en même temps, c'est le moteur même de l'existence de se dire que tout n'est pas perdu. C'est-à-dire que malgré tout, voir le positif, pouvoir avoir une chance d'advenir, c'est la chose qui nous fait nous réveiller le matin. C'est la chose qui nous fait ne pas dormir. Puisque sinon, on n'aurait plus rien à faire si de toute façon, il n'y a rien à tirer, il n'y a plus rien à faire.
Oui, c'est vrai, de toute façon, c'est la situation.
Et il y a des explications anthropologiques à ça, hein. Ce serait des résurgences de l'évolution, c'est-à-dire que cette capacité psychique qu'ont les humains à pouvoir voir le positif et à sélectionner dans leurs souvenirs les souvenirs les plus positifs, ont fait que ce serait une conséquence de la sélection naturelle et que finalement, ceux qui voyaient le négatif ont fini par disparaître.
Vous ne l'avez pas. Ça, c'est le médecin qui dit ça à Niels. Je ne l'ai pas, dit-il. Non, le texte génétique est formel. Les gènes de Naya ne sont pas dans votre génome. Donc, un risque sur deux, je suis tombé sur la chance. C'est cela. J'ai tiré la bonne porte. Je peux vous prendre dans mes bras. Dites-nous. Vous comprenez, après ma mère, sa maladie, mon destin, ma mort, la porte des toilettes, l'enterrement, les bûches, les mogres, toutes les choses si terribles du monde qu'on voit tous les jours, savoir que je vais dormir, ça me rend muet. Eh bien, les bras, quand les mots sont partis, je comprends, Niels. J'avais bien raison, je m'en sors toujours. Oh, je vous aime, Nour, je vous aime tellement. Non, Niels. Elle a de bonnes raisons de lui dire non.
Elle a de bonnes raisons de lui dire non, déjà parce qu'elle n'est pas intéressée, la première des choses. Et elle a d'autres bonnes raisons, alors qui ne sont pas explicites et qui d'ailleurs resteront en doute. C'est-à-dire ce secret reste en suspens finalement, aussi sur la fin. C'est la question. Et c'est la question de la pièce finalement, de savoir qu'est-ce qu'on veut voir ou ne pas voir. Et c'est là où le but c'était d'inviter les gens en dehors du spectacle à pouvoir discuter, de eux savoir comment ils avaient perçu chacun. Ces secrets qui sont en doute, où il y a juste des éléments clés, et de voir comment chacun peut percevoir les choses à sa manière.
Merci beaucoup Emmanuel Gavard de venir nous parler des endormis. Mes enfants, les mogres sont parmi nous. Il est 3h33, c'est la nuit de la nuit, l'heure d'aller réveiller les endormis.
Vous écoutez Aligre FM 93.1. Chute libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie. Vous écoutez Aligre FM 93.1.